Allez, on passe tout de suite à la question macro. Ça sera sur l'inflation en zone euro, 3,2%, la hausse des prix en zone euro. Pas une surprise avec la hausse des prix d'énergie, évidemment. Mais on sent déjà, malheureusement, la fébrilité de la BCE qui est prête à dégainer, comme toujours, à contre-courant, une hausse des taux dès le mois de juin. Première chose, un problème de sémantique, Isabelle. Quand on dit l'inflation en zone euro est de 3,2%, est-ce que c'est correct ou est-ce qu'on devrait dire la hausse des prix à la consommation dans zone euro était de 3,2% et la hausse des prix, c'est pas l'inflation?
Ouf,
c'est la théorie de Jean-Marc Daniel qui
le dit. Des prix, enfin, c'est la hausse des prix à la consommation. Ouais. Enfin, l'indice, l'inflation, c'est la hausse des prix à la consommation sur
c'est pas ce que nous dit Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel nous répète en permanence ici, sur cette antenne, que l'inflation, c'est la hausse des prix généralisée. Et que là, on n'a pas une hausse des prix généralisée.
On a une déformation des prix relatifs.
Voilà.
C'est vrai qu'on a une déformation des prix relatifs parce qu'il y a des prix qui montent, notamment les prix de l'énergie, c'est ce qui fait.
Il n'y a que ça qui monte, et un peu l'alimentaire.
Typiquement, si on regarde l'indice d'inflation, donc le 3,2, je pense que ce qui peut inquiéter un petit peu la BCE de ce point de vue-là, sur ses effets un peu second tour, en tout cas de transmission ou de répercussion des hausses amont sur l'énergie, c'est sur les prix des services.
Ouais.
Les prix des services ont fortement accéléré, tout est relatif, mais on est passé de 3 à 3,5%, ce qui quand même marque une certaine accélération. Mais là où il a raison, Jean-Marc Daniel, c'est oui, c'est pas tous les prix qui montent en même temps. On a plutôt une déformation des prix relatifs. Il y a certains prix qui... Et par exemple, en France, les prix des produits manufacturés continuent de baisser.
Alors vous êtes... Imaginez, vous êtes patronne de la BCE. Ouais. Vous avez
imaginez quand même.
Juste pour l'émission. Vous voyez, le bizutage, ça sera ça. C'est pas méchant quand même.
Non, ça va.
De vous mettre à la place de Christine Lagarde. Il faudra acheter l'écharpe. Mais vous avez d'un côté cette hausse des prix de 3,2% et de l'autre côté, vous avez la croissance qui est à -0,2. Vous vous dites quoi? Je monte les taux parce qu'il faut montrer que je fais mon boulot et que je combats l'inflation, même si c'est purement symbolique. Ou je me dis, non, c'est la cata. Si je monte les taux, ça va encore plus plomber les entreprises qui n'ont pas besoin de ça.
Alors, si je suis dans les chaussures d'un banquier central européen qui n'a qu'un seul mandat, qui est celui de l'ancrage nominal, donc qui est celui de l'inflation, avec une cible de moyen long terme qui, je le rappelle, est à 2%. Donc on a aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on a quand même une inflation qui est à 3,2%, donc au-delà de la cible. On sait très bien, par contre, ils sont très conscients qu'on a un choc d'offres, effectivement, qui concerne essentiellement les prix de l'énergie et que les banques centrales, elles peuvent pas agir directement
sur le détroit d'Hormuz.
Sur ces prix, c'est pas voilà, elle va pas débloquer. On espérerait, mais non, elle ne peut pas débloquer le détroit d'Hormuz. Donc généralement, ce que vous dit la théorie, c'est que dans cette configuration, il n'y a pas nécessité d'agir. Faut patienter, surtout si le choc est de nature temporaire. Sauf si vous imaginez qu'il y a un risque d'effet de second tour.
Okay.
Ces effets de second tour, c'est ces réactions en chaîne l'on a. C'est quand il y a de l'inflation, les salariés vont demander de plus de hausse de salaire. Les entreprises vont chercher à préserver leurs marges en augmentant leurs prix de vente. Et tout ça,
c'est pas le cas quand l'économie
aujourd'hui,
ralentit.
Aujourd'hui, on se dit que ce risque, par rapport à 2022, on était dans une situation différente. Aujourd'hui, ce risque est quand même très faible. Mais je pense que la BCE aujourd'hui ne peut pas faire abstraction de l'effet mémoire de ce qui s'est passé en 2022, où, si vous vous rappelez, les banques centrales ont été fortement critiquées pour avoir agi tardivement, alors que l'inflation ne cessait d'accélérer. Elles ont agi tardivement et donc, du coup, elles ont été obligées d'agir très vite et très fort, ce qui a été un élément perturbateur. Donc oui, elle va probablement monter ses taux. C'est plutôt d'ordre symbolique pour se dire qu'elle s'occupe du problème. Et franchement, ça n'a pas changé la face du monde.
Ça ne va pas l'améliorer.
On est au taux neutre niveau de politique monétaire. Donc c'est plutôt un signal, et puis à la rigueur, si la croissance, alors admettons que on arrive à résoudre en partie cette crise en Iran, et si la croissance vraiment, on a une panne de croissance, les banques centrales pourront faire marche arrière.
Bon,
donc je suis moins critique. On aime beaucoup critiquer la Banque Centrale Européenne, mais elle fait face à un mandat.
Franchement, moi je trouve qu'elle s'est totalement plantée depuis 2021, je le répète ici toutes les semaines.
Je sais.
Christopher, vous êtes patron de la BCE, qu'est-ce que vous faites?
Je ne mets pas d'écharpe, mais en revanche, effectivement, elle doit, si vous devenez patron de la BCE, vous devez essayer de gérer le Conseil des gouverneurs pour sortir du mandat. Le problème, c'est le mandat effectivement de la BCE. Si on lit le mandat de la BCE, elle doit juste augmenter les taux, comme l'ont fait, je crois, à peu près 13 autres banques centrales du fait de la crise en Iran. Est-ce que c'est une erreur de l'augmenter, notamment si on passe de 2 à 2,50%, ça voudrait dire dose de taux selon le marché monétaire qui est un peu attendu, donc le 11 juin et en septembre. Moi, ma crainte, c'est pas tant sur les grandes entreprises. Si vous regardez aujourd'hui les conditions de refinancement des grandes entreprises, tout ce qui est crédit à yield, etc., ça se passe bien, ça changera pas la face du monde, et je suis complètement d'accord. En revanche, vous rajoutez un facteur négatif sur les entreprises PME, ETI qui ont recours au crédit bancaire, avec des banques qui vont être peut-être un peu plus réticentes, parce qu'il faut bien reconnaître que la trajectoire de croissance en zone euro, et les derniers chiffres sont là, est pas très réjouissante. Donc, vous avez quand même... moi, ma crainte, c'est un peu cette japonisation de l'économie européenne. C'est-à-dire, c'était un sujet il y a quelques années de ça, et à mon avis, c'est toujours là. C'est-à-dire, une croissance qui reste relativement limitée. D'ailleurs, on est bons élèves, hein, finalement, en termes de croissance en France, par rapport même aux autres pays de la zone euro. Et surtout, une incapacité à remonter la croissance, à sortir de cette croissance potentielle, ou légèrement sous la croissance potentielle, qui est autour de 1%.
Donc, vous faites quoi, vous, si vous êtes patron de...
Ah, moi, je passerai outre, parce que je suis impulsif et j'ai cette erreur-là de caractère. J'augmenterai pas les taux.
Mais... Les entreprises regardent ça, Pierre, ou pas? Ou elles se disent, j'espère que la BCE
les
va
entreprises,
pas...
là, pour l'instant, c'est le SMIC. Donc, le SMIC, il y a une formule avec l'inflation, donc il va monter. Et c'est vrai que dans l'ambiance actuelle, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas quelque
d'accord,
chose d'agréable.
D'accord, mais sur les taux, les entreprises, vous avez l'impression qu'elles disent un peu comme Isabelle, bon, c'est pas la fin du monde si on a une ou deux hausses de taux symboliques, ou elles disent comme moi que c'est un très mauvais signal.
Non, mais c'est pas un bon signal. Maintenant, là où je rejoins, c'est que c'est marginal, je dirais. Mais c'est vraiment le problème, c'est plutôt le SMIC. Voilà, je dirais, c'est la préoccupation. Ensuite, pour les secteurs qui sont exposés aux taux, comme l'immobilier, par exemple, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, là, on a vu maintenant, depuis le début de la guerre en Iran, on a vu quand même le secteur immobilier qui était en train de redémarrer tranquillement.
Par les défoncières, notamment côté.
Les foncières, les promoteurs. Donc là aussi, on est reparti sur quelque chose. Donc eux, ils sont très sensibles au taux. Et c'est vrai que ce signal, même s'il est symbolique de la BCE, c'est pas bon, quoi, pour les emprunteurs.
Vous avez vu ce que vous avez fait, Isabelle?
À cause de vous,
le secteur de l'immobilier est dans la panade. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais non, mais même si je regarde pour ma paroisse, c'est pas bon pour les banques. Quand vous augmentez les taux courts, ça va aplatir la courbe des taux et donc votre activité de transformation, le crédit, eh bien, elle devient moins rentable.
Mais vous montez les taux quand même.
Non, je dis que si je me conforme à mon mandat, oui, je me sens un peu contrainte. Et puis effectivement, de toute façon, c'est pas la décision de Madame Lagarde, c'est une décision qui est collégiale. Donc je rejoindrai ce que me diront mes amis autour de moi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi qui vont vouloir monter les taux d'intérêt.
Typiquement Isabelle Schnabel.
Voilà.
Ouais, bon, ouais.
Isabelle,
l'autre. Aux États-Unis, on regarde ce que va faire la Fed parce que c'est très important. On a un nouveau patron de la Fed qui arrive. Il est quand même sous contrainte de Donald Trump. D'un autre côté, il y a un peu les chiffres d'inflation.
Oui, mais cela dit, vous avez vu l'impact des anticipations. Et là aussi, il y a eu un switch aux États-Unis où on a dit il n'y aura plus de baisse des taux, voire une hausse des taux, etc. Il y a eu moins d'impact sur les marchés, la sensibilité, la lecture. Alors, probablement parce qu'il y avait d'autres sujets qui ont pris le dessus. Et notamment tout ce qui est technologie IA. Mais la sensibilité, donc c'est
aujourd'hui.
Moins...
Qu'est-ce qu'il va faire, le nouveau patron de la Fed, là?
Je pense que le meilleur des
scénarios... Comment il va faire entre Donald Trump, qui va lui hurler au téléphone...
À mon avis, ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'en fait, le meilleur des scénarios, c'est qu'il laisse les taux au niveau stable. Il ne va pas les baisser immédiatement. En revanche, il y a encore quelques jours cela, dans une interview, il a été très très clair. Pour lui, la direction en termes de taux d'intérêt... directeur, c'est d'avoir des taux qui seront très bas parce qu'effectivement, aux États-Unis, l'IA va être déflationniste. Donc, ça colle au discours de Trump. Donc, à mon avis...
Voilà un bon banquier. Isabelle. Voilà un bon banquier d'affaires américain, Isabelle.
Donc, vous voyez, si, à mon avis, s'il passe l'été sans hausse de taux, il passe l'été et on peut rediscuter en fin d'année, voire 2027.
Mais on parlait des méga... des jumbo cuts. C'est pas d'actualité pour l'instant. Le fait que quand il arrive, il descend à 0,5.
Il y a certains membres comme Christopher Waller qui étaient plutôt en faveur de ces baisses de taux assez massives et qui étaient assez consensuels par rapport à d'autres qui ont été nommés par Trump. On voit qu'il laisse plutôt l'optique de stabiliser les taux. Mais ça peut être un sujet l'an prochain, en revanche.
Mmh. À mon avis, mais d'ici à la fin de l'année, vous voyez des baisses de taux aux États-Unis?
Je serais pas surpris d'avoir une baisse, oui.
Mmh. D'ici à la fin de l'année aux États-Unis.
Ben, c'est encore l'idée de la collégialité. Il va pas décider tout seul. Il va falloir qu'il convainque les autres membres du comité de politique monétaire. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, alors ça va dépendre de ce qui se passe dans les prochains mois, mais qu'aujourd'hui, ça soit en faveur d'une baisse de taux. Mais effectivement, on est encore très loin du second semestre. On sait tout ce qui peut se passer. On voit très très bien que ça bouge très très vite. Donc oui, le champ est ouvert, mais il va falloir quand même convaincre les autres.
Vous voyez quand même qu'on a une émission, on a deux banquiers centraux, deux patrons de la BCE, deux gérants internationaux. Franchement, on vole très très haut.